Aujourd'hui, on va entrer dans le sixième message concernant les versets qui nous troublent parfois, les versets qui sont difficiles, qu'on ne mécomprend. Et donc, aujourd'hui, ce sera la parabole des dix vierges. Okay? Donc, je vais donner une assez longue introduction. Vous n'êtes pas obligé de chercher les versets dans l'introduction. Mais à un certain moment, je vais vous inviter à chercher le texte d'aujourd'hui. Donc, je veux commencer en parlant de Adam et Ève. Okay? Depuis la chute d'Adam, Dieu a promis le salut. C'est Dieu qui pourvoira pour le salut des pécheurs. Dieu n'a jamais dit que les hommes puissent obtenir le salut par leur propres œuvres, par le mérite ou autre chose. Le salut dépend toujours et uniquement de l'œuvre de Dieu, qui consiste, en fin de compte, de l'évangile de Jésus-Christ. Soit une personne croit en Jésus-Christ pour être sauvée, soit une personne ne croit pas en Jésus-Christ et reste perdue. On est tous perdus. Et on peut être sauvé en croyant en Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, on va focaliser dans cette parabole des dix vierges qui se trouve dans Matthieu chapitre 25. Donc, on va voir ça tout à l'heure. On n'est pas encore là. Okay? Mais c'est une parabole qui va distinguer entre le croyant né de l'Esprit et les autres personnes, peut-être même religieuses, qui ne sont jamais convertis à Christ. Ce sont des faux croyants, des gens religieux, mais pas sauvés. Les faux croyants sont encore et toujours morts dans le péché. Mais pour les vrais croyants, donc Jésus a dit que les vrais croyants sont passés de la mort à la vie. Le vrai croyant est né de l'Esprit, né de nouveau. Alors, dans Jean chapitre 3, nous avons ce personnage Nicodème. Nicodème était une de ces personnes religieuses, mais toujours séparée de Dieu. Donc, dans cet état séparé de Dieu, Nicodème, dans Jean 3, est venu voir Jésus de nuit. Hein? Il était religieux. Il était même instruit et sincère dans sa religion. Pourtant, Jésus lui a dit nettement, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Cette nouvelle naissance, le fait d'être né de l'Esprit, par la foi en Jésus-Christ, est le sujet de l'Évangile de Jean. Il parle de la foi en Jésus-Christ à travers tout cet Évangile. Le problème d'être religieux, mais perdu, c'est-à-dire d'être toujours séparé de Dieu. Ce problème s'applique aux catholiques, aux orthodoxes, à beaucoup de protestants, aux musulmans, et à beaucoup d'autres groupes, hindous, bouddhistes. Tous les gens de seconde génération, donc les parents sont devenus chrétiens, ils amènent leurs enfants à l'église, eh bien la seconde génération apprend à être religieux, d'être assis dans le culte, mais si la seconde génération, les enfants, ne se convertissent pas, chacun, eh bien, il reste séparé de Dieu. C'est le problème d'être religieux, mais pas sauvé. Donc, pour bien comprendre, assister au culte et faire des rites ne fait rien pour Dieu. Ça, c'est zéro pour Dieu. Ok? Dieu divise l'humanité toujours en deux groupes. Ce n'est pas le groupe des prédestinés et le groupe des non-prédestinés. Dieu divise l'humanité toujours selon les croyants en Jésus-Christ et les non-croyants. Jésus dit dans Jean chapitre 3, c'est le verset 35 et 36, donc il ne faut pas chercher. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc voilà, deux groupes. La personne qui croit en Jésus-Christ, qui donc a la vie, et la personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, donc qui reste sous la colère de Dieu. Concernant ceux qui ont cru dans le Fils de Dieu, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, donc je vais donner trois versets, Romains 8, verset 1, verset 2 et verset 11, donc on lit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix pour tous nos péchés. Il a pris sur lui notre condamnation. Il n'y a donc maintenant, que nous avons cru en Jésus-Christ, aucune condamnation. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà pris notre condamnation. Verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ça c'est nous qui ont cru en Jésus-Christ, nous sommes entrés sous cette loi de l'esprit de vie, pas cette loi de la mort qui était dans les ordonnances de l'Ancien Testament. Cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi du péché est morte parce que Christ a déjà été condamné, crucifié à notre place. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Okay? Donc c'est important de comprendre quand on croit en Jésus-Christ, l'esprit de Dieu entre dans la personne. C'est l'esprit qui naît de nouveau. C'est pour ça que Jean, chapitre 3, verset 6, dit qu'il faut être né de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce miracle de naissance spirituelle. À l'autre côté, dans verset 9, donc je n'ai pas lu tout le verset, mais Paul dit concernant les non-croyants, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est toujours séparé de Dieu. La personne qui n'a pas cru en Jésus-Christ était non-croyante et reste non-croyante, était perdue, reste perdue, était condamnée, reste condamnée. Dans le croyant, Dieu voit constamment son Saint-Esprit qu'il a fait habiter pas pour 10 jours ou 10 ans, éternellement. Jésus a dit, il envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, qui habitera éternellement dans les croyants. Le Saint-Esprit est le gage. Il est le sceau de notre salut. Et ceci est une affirmation biblique. C'est une chose qu'il faut croire. Vous ne pouvez pas le ressentir. C'est pas voilà, une chaleur qui me fait frissonner ou quelque chose. Okay? C'est une vérité biblique. On le croit ou on ne le croit pas. Mais il faut le croire. Il faut l'accepter, cette vérité, comme toutes les vérités, par la foi. La sécurité des croyants en Jésus-Christ est indiscutable. Cette sécurité est affirmée à plusieurs reprises à travers toutes les Écritures. Les promesses bibliques du salut sont le fondement de l'espérance chrétienne. C'est à cause de l'incompréhension de certains passages que parfois certains croyants sont tentés de mettre en doute cette vérité. Et c'est pour cela qu'une meilleure compréhension des passages troublants est nécessaire. Il faut mieux comprendre pour bien comprendre, pour ne pas mécomprendre. Donc la solution se trouve souvent dans la compréhension correcte du contexte. Okay? Donc quand j'ai commencé, j'ai parlé d'Adam, j'ai parlé de Dieu qui a fait la promesse du salut. Et donc, ça, c'est le grand contexte biblique. Dieu pourvoit pour le salut. OK? Mais après, on arrive à des contextes comme ici, Matthieu 25, qui, en fait, fait partie d'un très grand discours de Jésus, un discours prophétique. Et donc, on voit que dans le chapitre 24, Jésus parle de cette période future qui s'appelle la tribulation. Et dans le chapitre 25, Jésus parle de l'arrivée du Seigneur tout à la fin de la tribulation et la suite de son arrivée. Okay? Donc, on a un contexte prophétique. c'est pas un contexte historique. L'histoire est racontée par Jésus à ce moment-là, quand il était sur la terre. C'était enregistré dans les paroles pour tous les gens qui vont le lire comme nous par la suite. Mais la partie chapitre 24 et 25 de Matthieu sont un passage prophétique. Et c'est toujours prophétique, ce n'est pas encore réalisé. Donc, la tribulation des 7 années est le pire des pires. La pire situation, donc je vais tourner dans, vous pouvez aller là si vous voulez, mais je vous donnerai aussi le page pour ceux qui ont besoin. Donc, Matthieu 24, verset 37. Et là, c'est sur la page 985. Le verset 37 dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'arrivée du Fils de l'homme. Attends, c'était quel verset? Je me suis trompé, je pense. Bon, j'ai mal écrit le verset, donc il faut que je retrouve ça plus tard. Ou si quelqu'un connaît peut-être, qui dit 37. Il dit que ce temps est le pire depuis toujours. Je ne sais plus le numéro. On va le trouver plus tard, ok? Mais le point, c'est que la tribulation est horrible. Ce n'est pas un moment qui va... 21, ok, merci. Donc, on va chercher 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point où de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Merci, je vais noter le verset. Et le verset 21 parle de ça. C'est horrible. Jamais. Même dans la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y avait beaucoup, beaucoup de horribles choses. Et ça ne correspond même pas. C'est encore pire que toutes ces choses-là. Donc, à la fin de cette période horrible, et donc là, on arrive à Matthieu 25, et c'est sur la même page, ok, 985, on a l'arrivée de Jésus. On parle de la tribulation en Matthieu 24 et dans Matthieu 25, on parle de l'arrivée de Jésus. Ça commence avec l'arrivée de Jésus et le premier mot dans le chapitre donne l'indice de contexte. Il dit, donc nous on dit alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre traduction, mais ce mot alors, c'est un mot qui signifie à cette époque ou à ce moment-là. Donc, à quelle époque ou à quel moment-là, il parle de chapitre 24. Qui, au moment-là, à la fin du chapitre 24, dans ce moment-là, il dit, voilà, Jésus va arriver. Et il va donner ces deux paraboles. Donc, on va voir seulement le premier des deux paraboles. Peut-être dimanche prochain, je vais parler du second parabole. L'arrivée de Jésus dans l'Apocalypse est dans le chapitre 19. Donc, si vous voulez voir les détails pour l'arrivée de Jésus, vous pouvez lire Apocalypse chapitre 19. Donc, nous, les croyants de notre époque, nous n'allons pas connaître les choses qui vont arriver dans la tribulation. La Bible nous le dit, ce qui va se passer. Mais nous, on va être gardé entièrement en dehors de cette tribulation, tribulation qui va toucher toute la terre. Donc, c'est vrai que ici, on a un contexte, Jésus, il est à Jérusalem ou dans les environs de Jérusalem, et il parle de ce qui va se passer dans la tribulation, ça concerne surtout, donc, le discours concerne surtout le peuple d'Israël, pourtant, ça concerne aussi le monde entier. C'est un temps futur, j'insiste sur ce mot-là. Donc, la première chose, c'est que cette courte période, cette année, concerne surtout, je veux dire, focalise surtout sur la nation d'Israël. Et puis, seconde chose, Christ va arriver. Il va arriver en Israël, mais son arrivée sera divinement, ou si vous voulez, miraculeusement visible à travers le monde entier. Et troisième chose, Jésus va détruire tous ses ennemis. Donc ça, c'est dans Apocalypse 19. Et la quatrième chose, c'est que Jésus va établir son royaume. Donc on voit 1, 2, 3, 4 étapes différentes qui vont avoir lieu, tous à l'avenir. Ça va tout le monde? On ne parle pas d'hier ou il y a 2000 ans, on parle de, pas aujourd'hui, mais quelque chose dans le futur. Les deux paraboles qui sont ici dans Matthieu 24 enseignent surtout la nécessité d'être prêt. D'être prêt pour le retour de Jésus. Okay? Que nous soyons là aujourd'hui. Il pourrait revenir pour nous enlever. Donc être prêt. Ou si c'est les croyants à travers la tribulation, eh bien, pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Donc, il faut bien comprendre que ce que nous allons lire là, presque tout de suite, dans cette première parabole des 10 vierges, n'est pas une contradiction en comparaison avec tout le reste des doctrines bibliques à travers la Bible. Ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas quelque chose qui dit, voilà, si vous travaillez bien, vous allez être sauvé. Et sinon, vous êtes perdu. Ce n'est pas du tout l'idée de ces 10 vierges, ok? Cette parabole est une illustration, je vais dire, de la doctrine de la finalité. Finalité. Soit une personne est reçue par Christ sous la base de sa foi dans l'Évangile, soit une personne est rejetée par Christ sur la base de son manque de foi dans l'Évangile. La finalité du choix de chacun est mise en évidence au moment du retour du Christ, ou comme probablement pour la plupart parmi nous, au moment de mourir. Au moment de mourir, Paul dit que on est tout de suite, le croyant est tout de suite dans la présence de Jésus. Et le non-croyant. Et le non-croyant. Dans Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On n'a pas cette chance. Il faut choisir pendant notre vivant, si je veux être auprès de Dieu pour l'éternité, ou ça m'est égal. Au moment du retour de Christ, à la fin de la tribulation, quand l'époux revient avec son épouse, alors l'épouse, c'est l'Église. L'Église, c'est les croyants de notre époque qui seront tous partis rejoindre Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 15, soit par l'enlèvement, soit par la résurrection. Donc, ici, au moment du retour de Christ, l'époux arrive avec son épouse. Et dans la parabole, on a ici, donc, qu'on n'a pas encore lu, c'est à la fin de la tribulation, l'arrivée de Christ, ceux qui avaient cru en Jésus seront reçus dans le royaume, donc en particulier ceux d'Israël, mais ceci veut dire aussi tous les gens qui sont croyants dans tous les pays. Par contre, ceux qui remettaient leur salut pour plus tard, oh, peut-être un jour je vais croire en Jésus, eh bien, ces gens-là seront rejetés. Ce sont, en particulier, quand Jésus est en train de parler, il parle aux Juifs. Donc, ce sont les Juifs religieux, mais non pas nés de nouveau, comme Nicodème avait été au début dans Jean chapitre 3. Et comme beaucoup de gens, dans n'importe quelle religion pratique, même les athées et les agnostiques, ils sont dans une optique religieuse, leur manque de foi, qui les mettent sur le côté de ceux qui sont rejetés par Christ. Donc, rappelez-vous que les cinq vierges folles se trouvent dans une parabole prophétique. C'est très important qu'on garde cet aspect prophétique, c'est futur. Ce sont les non-croyants de cette époque-là, cette époque future. Les cinq vierges folles non-croyants ne concerne en rien les croyants de notre époque actuelle, avant la tribulation. On ne parle pas de ce qui est avant la tribulation. On parle de ce moment-là. Alors, à ce moment-là, le royaume des cieux est comme cette parabole. On va le lire, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. C'est la page 945. 985. Alors, verset 1. Alors, c'est ce moment. À ce moment-là, ok. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. C'est comme si vous prenez votre lampe de poche, mais vous ne mettez pas les piles. C'est ça. C'est stupide. Ok? Mais, il dit, les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » On va noter certaines choses concernant cette parabole. Notons premièrement que l'épouse est Christ. L'épouse, c'est l'Église de notre époque actuelle, avant la tribulation, et les 5 vierges sages sont des croyants de l'époque future de la tribulation. Notons aussi que toutes les vierges étaient endormies. Okay? La sommeil représente que le Seigneur est parti longtemps. Donc, ce détail-là sera repris dans la prochaine parabole, le fait que le maître est parti longtemps. Okay? Notons aussi que l'huile ne peut pas être partagée. Okay? Maman et papa ne peuvent pas croire pour leurs enfants. On ne peut pas partager la foi comme ça. On partage la connaissance de Jésus et la personne croit ou ne croit pas et on espère que tous nos enfants deviennent croyants. Mais on ne peut pas le faire pour eux. Chacun est responsable de sa propre croyance. Okay? Notons que le bon moment d'obtenir l'huile est en avant et non pas au dernier moment. Notons que Dieu divise toujours l'humanité, comme j'ai déjà dit, en deux groupes. Il distingue toujours entre les personnes sauvées et les personnes perdues. Notons que la porte, il dit, fut fermée. Ça, c'est la finalité. Je n'ai pas trouvé le mot pour exprimer mon sentiment sur ce mot. La porte fut fermée. Ça, c'est l'exclusion totale. Dans Genèse chapitre 7, verset 16, au moment de la finalité, après que Noé entrait dans l'arche, l'Éternel ferma la porte. Quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. OK? Quand Dieu ferme la porte, c'est fermé. Pour moi, ça, on ne peut pas parler plus de la finalité. Il n'y a plus de choix, il n'y a plus d'opportunité. Le point de cette parabole est l'arrivée du Seigneur. à la fin de la tribulation, après les premiers 1260 jours et les secondes 1260 jours, 2520 jours après l'enlèvement. Le temps est limité et défini d'avance. La Bible est très spécifique. Combien de jours pour le premier 3 ans et demi? 1260 jours. Et le second 3 ans et demi? 1260 jours. Donc on peut les compter et on peut faire un compte à rebours. Hein? Le temps est limité et défini. Pour nous, nous, avant la tribulation, nous ne connaissons pas le moment de l'enlèvement. Nous, on n'est pas quand Jésus va venir nous appeler chez lui. Ça, on ne sait rien. Mais quand il l'a fait pour nous, et on tombe dans cette horrible période de cette année, eh bien, on sait qu'il reste 2520 jours avant que Jésus va venir. Que faire? Eh bien, il faut faire le nécessaire pour survivre, parce que beaucoup de monde va être mis à mort pendant cette période-là. Okay? C'est une horrible période de cette année. Et donc, Jésus dit, veillez, soyez prêts. Cette expression est adressée à la fois aux croyants et aux non-croyants. Les cinq vierges sages ont pris avec elles l'huile. Et les cinq sages folles n'ont pas pris avec elles d'huile. Donc, la façon que Jésus présente cette parabole, il y a les dix vierges. Elles sont dix personnes, dix vierges, dix pécheurs. De l'extérieur, il n'y a pas de différence. Elles ressemblent toutes l'un comme l'autre. Okay? La différence, c'est l'huile. C'est ça la différence. Elles ont avec elles l'huile, ou elles n'ont pas avec elles l'huile. L'huile, c'est la clé de cette parabole. Que représente donc l'huile? Car seulement celle avec l'huile peut entrer dans la célébration des noces. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui croit en Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, l'apôtre Pierre dit que le Saint-Esprit est le don promis à tous ceux et celles qui vont croire en Jésus-Christ à travers les siècles. Le Saint-Esprit, c'est lui qui apporte aux croyants le salut et opère la nouvelle naissance. Il faut être né de l'esprit. Il faut naître de nouveau. Il faut avoir une vie spirituelle. Ce qui n'existe pas avant de croire en Jésus-Christ. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus ne le connaît pas. Et c'est pour cela que les cinq vierges qui n'ont pas d'huile reçoivent cet horrible message. Je ne vous connais pas. Aucune de ces cinq vierges folles n'a été née de l'Esprit. Donc, regardez dans le verset 10 encore. Donc, le verset 10, donc c'est un peu au milieu du verset, pendant qu'elle allait en acheter, il dit, l'époux arriva. OK, on commence là. L'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Les croyants pendant la tribulation seront prêts car ils ont l'huile. Donc, je ne parle plus des vierges en soi parce que les vierges représentent les croyants. Les croyants pendant la tribulation seront prêts car ils ont l'huile. Hein? Il n'y a rien à faire. Ils sont réveillés et puis ils ont allumé parce qu'ils avaient l'huile. Et quand il est arrivé, entrer tout de suite et prrr, la porte était fermée. Okay? Le futur croyant, au temps de la tribulation, sera dans un genre de compte à rebours, aux aiguilles pour l'arrivée de Christ. Donc, je vous rappelle que dans Matthieu 24, verset 22, il dit « Ceux qui survivront jusqu'à la fin, donc la fin de la tribulation, seront délivrés, sains et saufs, donc sauvés, par le Seigneur pour faire quoi? Pour vivre, pour entrer dans les noces, pour vivre dans le millénaire. Les non-croyants peuvent être prêts, mais seulement en se convertissant à Jésus-Christ, afin d'avoir lui. Donc, à bien comprendre, il n'y a aucune indication dans cette parabole que les personnes sauvées seront perdues. Une telle idée contredit toutes les promesses de Dieu. Par contre, il y a l'avertissement solennel que les insouciants et les retardataires seront certainement perdus, et cela sans remède. Il ne faut pas tarder. Si vous comprenez l'Évangile, il ne faut jamais remettre votre salut à plus tard. Ce sera de la folie. On ne connaît pas l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Si vous comprenez l'Évangile, n'attendez plus de recevoir Jésus comme votre sauveur. Invoquez le Seigneur aujourd'hui. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Vous vous rappelez de Nicodème. Nicodème avait été longtemps dans ce groupe de retardataires. Quand il est venu voir Jésus, il était déjà âgé. Okay? Il était retardataire, comme les cinq vierges folles, les gens religieux, mais indécis vis-à-vis du salut. Il est même venu pendant la nuit pour rencontrer Jésus, parce qu'il avait peur des autres. Et puis, à la fin, Nicodème s'est converti à Jésus. Il est devenu un des cinq sages. Frères et sœurs, ayez confiance dans les promesses du Seigneur. Le salut est une grâce aux pécheurs, moyennant la foi en Jésus-Christ. Rien, absolument rien, ne peut vous séparer de l'amour de Dieu exprimé dans l'Évangile. La parabole des 10 vierges montre, vous le relisez, vous allez voir, que toutes les 5 vierges sages étaient sauvées. Tous les 5 avec l'huile sont entrés, il n'y a pas une qui était perdue. Ensemble, elles sont entrées, toutes, dans la célébration du Seigneur. La parabole des 10 vierges montrent également la folie de côtoyer l'Évangile sans y croire. Et j'espère que chaque personne qui est là aujourd'hui ou qui entend le message puisse prendre l'Évangile dans le cœur, croire en Jésus-Christ. Donc je termine avec une petite pensée. Quelqu'un a écrit, la Bible est d'abord le livre du salut. En conséquence, évitons toute autre interprétation pouvant nous éloigner de son objectif principal. Donc, de dire que voilà, un chrétien peut devenir une vierge folle et rater son salut, ça c'est contradictoire. Il faut jeter une telle idée. Okay? Quand on bien comprend le contexte, Matthieu 24, Matthieu 25, ainsi que le message global de la Bible, nous ne pouvons pas nous tromper dans l'interprétation de cette parabole. Il est évident, en lisant la parabole, que les croyants seront sauvés, mais que les non-croyants seront perdus. C'est la vérité. C'est difficile, mais c'est la vérité. Okay? Donc, on va réfléchir à cela et si vous avez la famille, les amis, n'hésitez pas à les inviter à venir ici, à parler de Jésus chez eux, chez vous, quand vous pouvez, hein, parce que chaque personne doit rendre compte à Dieu. Et la finalité, c'est le moment. Ils ont cru en Jésus-Christ ou ils n'ont pas cru. Ils ont juste au moment de leur mort. Et là, on ne connaît pas quand ce moment viendra. Hein. Ça, ce n'est pas une promesse. C'est une promesse qu'on va tous mourir. Mais on ne sait pas quand. Ça, c'est un an, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. OK.